franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé est cinéaste, il est le réalisateur de L'humour à mort qui sort aujourd'hui sur les écrans français.
Bonjour Daniel Lecomte.
Bonjour.
Vous avez failli appeler votre film Je suis Charlie avant d'y renoncer. Pourquoi ? C'était trop facile ?
J'ai failli le faire parce qu'en fait, après avoir vu le film, Rhys, à qui j'ai demandé, voilà, je pense à un titre, à quoi tu penses ? Et il a eu cette réponse, Je suis Charlie. Et en fin de compte, ça m'a fait hésiter, parce qu'au départ, je voulais l'appeler L'humour à mort, et du coup, on a coupé la poire en deux. On a appelé Je suis Charlie dans le monde, et L'humour à mort en France. Ce qui fait que c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que le film...
Il a deux titres.
Et ce titre, comme il y a toujours deux titres, il y a une traduction en général, ou bien une interprétation, et partout d'ailleurs, il circule dans le monde sous le titre Je suis Charlie.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les autres membres de Charlie Hebdo, quand ils ont vu votre film ?
Ça... Et ils nous ont dit surtout, c'est notre film. Pour moi, c'était la plus grande, c'est la plus grande récompense parce que ce film était fait pour eux. Finalement, ce que je voulais, pour eux et pour les Français. C'est-à-dire, je voulais absolument qu'on entende leurs mots. Que ce soit leurs mots qui soient entendus et qui soient entendus, en tout cas, avant ceux des autres.
Vous aviez déjà fait un film sur Charlie Hebdo, un documentaire, c'est dur d'être aimé par des cons, au moment du procès, justement. Est-ce que vous avez hésité à en refaire un ? Est-ce que vous avez dit finalement à quoi ça sert ?
Oui, bien sûr que j'ai hésité. Et c'est mon fils qui m'a convaincu dans ce moment un peu terrible pour moi, puisque c'était mes amis qui avaient été tués. C'est mon fils qui m'a convaincu de le faire. Et qui m'a convaincu sur un point. C'est quand, vous savez, quand les tueurs sont sortis de Charlie Hebdo, ils ont crié « on a tué Charlie ». Pour moi, c'était très important, si vous voulez, à ce moment-là, que ce soit pas ces paroles qui restent. Et que les paroles qui restent, ce soient celles des gens de Charlie, et de les faire vivre, justement.
Justement, le témoignage le plus bouleversant de votre film, c'est celui de Coco. Elle raconte les minutes qui ont précédé le carnage, elle raconte ce qui s'est passé, sa rencontre avec les frères Kouachi, et elle raconte aussi l'ironie de l'ultime conférence de rédaction de Charlie Hebdo, quelques secondes, quelques minutes avant le carnage. Il parle justement, et c'est ça l'ironie, il parle justement des djihadistes qui partent en Syrie, et ils ne sont pas d'accord. T-News, d'un côté, dit « il faut les aider, ces jeunes », et Bernard Maris lui répond « non, ça suffit, la République a déjà beaucoup fait ».
Oui.
Et vous racontez cette scène.
Oui, parce que je trouve qu'elle est emblématique, c'est-à-dire que de ce qu'est Charlie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Charlie, de la rédaction de Charlie, il y avait des gens, effectivement, qui partageaient ce point de vue, comme beaucoup de gens le pensaient. C'est-à-dire que le problème des cités était un problème purement social. Et on s'apercevait bien que le problème n'était pas là. Si vous voulez, entre Bernard Maris et T-News, il y avait justement une différence essentielle, c'est que Maris pensait que le problème était ailleurs que sur le problème social.
Qu'il était identitaire aussi.
Qu'il était identitaire, évidemment.
C'est pas seulement un hommage, votre film. C'est un film engagé, disons-le clairement. Vous revenez longuement sur le détonateur de tout, ce fameux procès en 2007. Le procès de Charlie Hebdo pour avoir publié les caricatures de Mahomet, les caricatures danoises, et vous posez la question très clairement, est-ce que l'histoire aurait été différente si tous les journaux français avaient publié ces caricatures ?
Ça me paraît évident.
Quelle est votre réponse ?
Ça me paraît évident.
L'histoire aurait été différente ?
Évidemment. Au lieu de pointer le du doigt Charlie Hebdo uniquement, si l'ensemble de la presse avait réagi de façon collective et homogène, ça aurait été beaucoup plus difficile, en tous les cas, que ce soit eux qui soient visés en premier. Parce que je pense que de toute façon, la question qui se posait, c'était pas de savoir s'ils allaient être visés, si on allait être visés. La question, c'est de savoir qui allait être visé en premier, parce que tout le monde savait qu'on allait être visé. Enfin, les gens qui suivaient ça attentivement le savaient. Donc la question, c'est effectivement si la presse avait eu une réaction homogène.
Du courage ?
Oui, je pense du courage à ce moment-là, mais ça, pas simplement du courage. De la conscience, ce qui est autre chose.
Daniel Lecomte, il y a la prédiction assez dingue de François Hollande il y a 8 ans au moment du procès. Il déclare « Je pense que ce procès fait qu'il n'y en aura pas d'autre. En clair, tout est classé, l'affaire est classée, l'affaire est gagnée. » Il ne pouvait pas plus se tromper, François Hollande, il y a 8 ans.
Ça, c'est
un moment assez dingue.
C'est vrai. C'est à la fois bizarre parce qu'il y a une grande clairvoyance au moment où il vient à la barre. Parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette clairvoyance-là et qui fait ce geste comme le font François Bayrou et Nicolas Sarkozy qui ne vient pas à la barre mais qui envoie un soutien. Donc il y a une grande clairvoyance là-dessus et puis il se plante complètement sur le reste. D'ailleurs, oui, parce que bon, il se plante sur le reste. Et bon, c'est vrai que dans ce qui a suivi, les organisations représentatives de l'islam de France ont plutôt été conciliantes, même si elles n'ont pas fait assez. Et il y a eu les terroristes qui n'ont pas joué le jeu, évidemment, mais qui ne respectent pas l'état de droit et qui, eux, sont passés par-dessus et ont tué. Voilà. Et ça, effectivement, je crois que François Hollande ne l'a pas vu venir.
Vous parlez de ces journées de janvier où Charlie devint la France, la mobilisation du 11 janvier, et puis l'essoufflement, et puis peu à peu l'indifférence. Vous citez Elisabeth Badinter qui dit « Chacun finalement est retourné à sa vie, on s'est laissé tout doucement, passivement couler. » Pourquoi l'élan est retombé?
Je pense que l'élan est retombé en grande partie, à cause des élites médiatiques intellectuelles. Je trouve désastreux le traitement de cette affaire. C'est quand vous pensez que le 14 janvier, c'est-à-dire 7 jours après, sort un article dans le Nouvel Observateur qui vise Charb en disant que c'était lui le responsable de cette affaire. Il a donné le signal de départ de tout le reste et du travail d'Emmanuel Todd sur cette affaire.
Vous ne les citez pas. Hein,
non, je ne les cite pas parce que je ne voulais pas leur faire de publicité. Mais c'est dramatique, si vous voulez, qu'on ait laissé à ces gens-là faire l'information sur ce sujet-là à des intellectuels zombies, si vous voulez, de faire ça.
Ils n'étaient pas les seuls à parler.
Ils n'étaient pas les seuls, mais c'était eux qu'on entendait surtout le plus partout. Et si vous voulez, ça, c'est dramatique. Je pense que moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai vu que petit à petit, ça se délitait. Petit à petit, les gens de Charlie, si vous voulez, étaient transformés en bêtes de foire. Que petit à petit, si vous voulez, on ne parlait plus de Charlie que sur des questions d'argent qui n'existaient pas, et on le sait tous aujourd'hui. Et au lieu de parler du vrai problème, de nommer les choses, on n'en parlait pas. C'est tragique ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a attendu que ce soit un intellectuel comme Todd, entre guillemets, si vous voulez, qui nous dise ce qu'il fallait penser du 11 janvier, qu'ont fait les journalistes sur la plus grande manifestation en France depuis que les manifestations existent, 4 millions de Français dans les rues de France, qu'ont fait les journalistes pour nous expliquer ce qui s'était passé ce jour-là.
On n'avait pas le droit.
Pas grand-chose.
On n'avait pas le droit de critiquer. On n'avait pas le droit de dire.
Certains.
Est-ce qu'on avait le droit de dire je ne suis pas Charlie ou je suis Charlie May ou vous dites non, on n'a pas le droit.
J'appartiens pas à une tradition, si vous, même si j'ai été journaliste, j'appartiens pas à une tradition quand les gens sont morts et pas encore refroidis. Qu'on leur tire dessus et de façon inconsidérée. Je n'appartiens pas à cette tradition-là.
Donc votre film, c'est aussi un procès contre les journalistes ?
Non, pas contre les journalistes, je pense pas seulement. Je pense que, pas contre les journalistes, ça veut rien dire. Contre certains journalistes, si vous voulez. Je pense contre certains intellectuels qui ont joué avec le feu, sur un baril de poudre. On fait attention, on doit être responsable. On a tous les droits en France quand on est journaliste. On a tous les droits, on a le droit de tout dire.
Même
on a le droit de tout dire.
Catholique zombie.
Ben oui, catholique zombie. Sauf que si vous voulez, quand on l'est aussi, on a de la responsabilité.
Vous avez compris ce que ça voulait dire, je suis Charlie ?
Pour moi, franchement, c'est un faux débat. Je comprends tout à fait que les gens ne soient pas Charlie. C'est pas le problème. Qu'ils soient Charlie, qu'ils soient pas Charlie, on leur demande pas d'être des religieux, d'être à genoux. On leur demande simplement une chose, c'est de dire qu'on ne tue pas pour un dessin. Ça, en revanche, on leur demande d'être inflexible là-dessus.
Ça s'appelle L'humour à mort, ça sort aujourd'hui sur vos écrans. C'est signé Daniel Lecomte, merci à vous. Si jamais Star Wars vous sort par les yeux, allez voir ce documentaire. Merci.
Merci. Non, même si ça ne vous sort pas par les yeux.
Même si ça vous fait voir les deux.
Merci à vous Léa Salamé.